Chapitre 56. Lamme-Gudzak, en ce temps-là, vint de nouveau demeurer à Dame, le pays de Liège n'étant point tranquille à cause des hérésies. Sa femme le suit volontiers, parce que les Liégeois, bons gausseurs de leur nature, se moquaient de la débonnaireté de son homme. Lamme allait souvent chez Claes, qui, depuis qu'il avait hérité, rentait la taverne de la Blaue Tore, et s'y était choisi une table pour lui et ses compagnons. À la table voisine se trouvait, buvant chichement sa demi-pinte, Jos Gripstweaver, l'avare doyen des poissonniers, ladre, chichard, vivant de harengs, aimant plus l'argent que le salut de son âme. Claes avait mis dans sa gypsière le morceau de parchemin sur lequel étaient écrits ses 10 000 ans d'indulgence. Un soir, qu'il était à la Blaue Tore, en la compagnie de Lamme-Gudzak, de Jan van Osbeek et de Mathis van Asche, José Gripsweaver était présent et Claes chopina très bien, et Jan van Osbeek lui dit « C'est péché que de t'en boire !» Claes répondit « Oh, ne brûle qu'à demi-jour pour une panne de trop. Et j'ai 10 000 ans d'indulgence en ma gypsière, qui en veut 100 afin de pouvoir se noyer sans crainte l'estomac. » Tous crièrent « Mais combien les vends-tu ?»« Oh, une pinte, répondit Claes, mais j'en donne 150 pour une musque conine. » C'est une portion de lapin. Quelques buveurs payèrent à Claes, qui une chopine, qui du jambon. Il leur coupa à tous une petite bande de parchemin. Ce ne fut point Claes qui mangea et but le prix des indulgences, mais Lamme-Gudzak, lequel mangea tant qu'il gonflait à vue d'œil, tandis que Claes, débitant sa marchandise, allait et venait dans la taverne. Gripstweaver, tournant vers lui son aigre trogne, « En as-tu pour 10 jours ?» dit-il. « Oh non, répondit Claes, c'est trop difficile à couper. » Et chacun de rire, et Gripstweaver de manger sa colère. Puis Claes s'enfuit en sa chaumine, suivi de Lamme, cheminant comme s'il eût eu des jambes de laine. Vers la fin de sa 3e année de bannissement, Kathleen rentra à Dame en son logis. Et sans cesse, elle disait affolée, « Feu sur la tête, Lamme frappe, faites un trou et veut sortir !» Et elle s'enfuyait toujours, voyant des bœufs et des moutons. Et elle se mettait sur le banc, sous les tilleuls, derrière sa chaumine, branlant la tête et regardant, sans les reconnaître, ceux de Dame qui disaient en passant devant elle « Voici la folle !» Cependant, vaquant par chemins et par sentiers, Eulenspiegel vit sur la grande route un âne enharnaché de cuir à clous de cuivre et la tête ornée de flocards et pendioches de laine. Quelques vieilles femmes se tenaient autour de l'âne, disant et parlant toutes à la fois « Personne ne peut s'en emparer, c'est l'horrifique monture du grand sorcier, le baron de Ray, brûlé vif pour avoir sacrifié 8 enfants au diable. Commère, il s'est enfui si vite qu'on ne l'a pu rattraper. Satan y est qu'il protège. Car tandis que fatigué, il s'était arrêté sur la route, les sergents de la commune vinrent pour l'appréhender au corps, mais il ruait et braillait si terriblement qu'il n'en osait rapprocher. Et ce n'était point braire d'âne, mais braire de démon. Si on le laissa brouter le chardon sans lui faire son procès, ni le brûler vif comme sorcier, ces hommes ont point de courage. Nonobstant ces beaux discours, sitôt que l'âne dressait les oreilles ou se battait les flancs de sa queue, elle s'enfuyait en criant, pour se rapprocher ensuite, caquetant et jacassant, et faire le même manège au moindre mouvement du baudet. Mais Eulenspiegel, les considérant et riant, dit-il, curiosité sans fin et sempiternel parlement, sortent comme fleuve des bouches des commères, et notamment des vieilles, car chez les jeunes le flot en est moins fréquent, à cause de leurs amoureuses occupations. Considérant alors le baudet, « Cet animal sorcier, dit-il, est alerte, et ne trotte point des épaules, sans doute, je puis le monter ou le vendre. » Il s'en fut sans mot dire, chercher un picotin d'avoine, le fit manger à l'âne, lui sauta sur le dos prestement, et lui tendant la bride, se tourna vers le septentrion, l'Orient et l'Occident, et de loin bénit les vieilles. Celles-ci, pâmes et de peur, s'agenouillèrent, et il fut dit ce jour-là, à la veillée, qu'un ange, coiffé d'un feutre à plumes de faisan, était venu, les avait toutes bénies, et avait emmené l'âne du sorcier, par faveur spéciale de Dieu. Et Eulenspiegel s'en allait, califourchonnant son âne, au milieu des grasses prairies, où bondissaient en liberté les chevaux, où pâturaient les vaches, et génisse, couchée au soleil, paresseuse. Et il le nomma Jeff. L'âne s'était arrêté et, bien joyeux, dînait de chardon. Quelquefois, cependant, il frissonnait de toute la peau et de la queue se battait les flancs afin d'écarter les temps voraces qui, comme lui, voulaient dîner mais de sa viande. Eulenspiegel, dont l'estomac criait la faim, était mélancolique. « Tu serais bien heureux, disait-il, monsieur Dubaudet, dînant comme tu le fais de gras chardon, si nul ne te venait déranger en ton aise et te rappeler que tu es mortel, c'est-à-dire né pour endurer toutes sortes de vilainies. Ainsi que toi, poursuivit-il, serrant les jambes, ainsi que toi, l'homme à la sainte pantoufle à son temps, c'est monsieur Luther. Et sa haute majesté Charles a le sien aussi, c'est messire François premier du nom, le roi au nez très long, et à l'épée plus longue encore. Il est donc bien permis à moi, pauvre petit bonhomme, errant comme un juif, d'avoir aussi mon temps, monsieur Dubaudet. Là, toutes mes pochettes sont trouées par le trou. S'en vont courant la prétentaine tous mes beaux ducats, florins et d'Elder, comme une légion de souris fuyant la gueule d'un chat. Je ne sais pourquoi l'argent ne veut point de moi, moi qui voudrais tant de l'argent. Fortune n'est point femme, quoi qu'on dise, car elle n'aime que les ladres avares qui l'encoffrent, l'ensacquent, l'enferment à vingt clés. Et si jamais ne lui permettent de pousser à la fenêtre seulement un petit bout de son nez tout doré. Voilà le temps qui me ronge et démange et me chatouille sans me faire rire. Oh, tu ne m'écoutes point, monsieur Dubaudet, tu ne songes qu'à paître. Ah, pense à remplissant ta panse, tes longues oreilles sont sourdes au cri des ventres vides. Écoute-moi, je le veux. Et il le fouetta bien amèrement. L'âme se prit à braire. Venons-nous-en maintenant que tu as chanté, dit Eulenspiegel. Mais l'âme ne bougeait pas plus qu'une borne et semblait avoir formé le projet de manger jusqu'au dernier tous les chardons de la route. Et il n'en manquait point. Ce que voyant Eulenspiegel, il mit pied à terre, coupa un bouquet de chardon, remonta sur son âne, lui mit le bouquet sous la gueule et le mena par le nez jusque sur les terres du landgrave de Hesse. « Monsieur Dubaudet, disait-il cheminant, tu cours derrière mon bouquet de chardon, maigre pâture, et tu laisses derrière toi le beau chemin tout rempli de ces plantes friandes. Ah si, font tous les hommes. » Flairant les uns le bouquet de gloire que fortune leur met sous le nez, les autres le bouquet de grains, d'aucuns le bouquet d'amour. Et au bout du chemin, ils s'aperçoivent comme toi avoir poursuivi ce qui est peu, et laisser derrière eux ce qui est quelque chose, c'est-à-dire la santé, le travail, le repos et le bien-être au logis. Et devisant de la sorte avec son bonnet, Eulenspiegel vint devant le palais du Landgrave. Deux capitaines d'arquebusier jouaient au dé sur l'escalier. L'un des deux, qui était roux de poil et de stature gigantesque, avisa Eulenspiegel, se tenant modestement sur Jeff et les regardant faire. « Que nous veux-tu » dit-il face à femme et pèlerinante. J'ai grand faim, en effet, répondit Eulenspiegel, et pèlerine contre mon gré. Ben, si tu as faim, repartit le capitaine, mange par le cou la corde qui se balance à la potence prochaine destinée aux vagabonds. Mais, sire capitaine, répondit Eulenspiegel, si vous me donniez le beau cordon tout d'or que vous portez au chapeau, j'irais me pendre avec les dents à ce grand jambon qui se balance là-bas chez le rôtisseur. D'où viens-tu ? Demanda le capitaine. De Flandre, répondit Eulenspiegel. Que veux-tu ? Montrer à son Altesse Landgravial une peinture de ma façon. Oh, si tu es peintre de Flandre, dit le capitaine en tressaillant, je te vais mener près de mon maître. Étant venu auprès du Landgrave, Eulenspiegel le salua trois fois et davantage. Que votre Altesse, dit-il, daigne excusez mon insolence, d'oser venir à ses nobles pieds, déposer une peinture que je fis pour elle, et où j'eus l'honneur de pourtraire Madame la Vierge en atours impériaux. Cette peinture, poursuivit-il, lui agréera peut-être, et en ce cas, j'outrecuis d'assez de mon savoir-faire pour espérer de hausser mon séant jusqu'à ce beau fauteuil de velours vermeil où se tenait en sa vie le peintre à jamais regretté de sa magnanimité. Le sire Landgrave ayant considéré la peinture qui était belle, « Ah, tu seras, dit-il, notre peintre, sieds-toi là sur le fauteuil. » Et il le baisa sur les deux joues joyeusement. Eulenspiegel s'assit. « Te voilà bien loqueteux, dit le sire Landgrave, le considérant. » Eulenspiegel répondit, « Ah, en effet, monseigneur. » Jeff, c'est mon âne, Dina de Chardon, mais moi, depuis trois jours, je ne vis que de misère et ne me nourris que de fumée d'espoir. Oh, tu souperas tantôt de meilleures viandes, répondit le Landgrave, mais où est ton âne? Eulenspiegel répondit, bah, je l'ai laissé sur la grande place vis-à-vis le palais de votre bonté. Je serais bien aise si Jeff avait pour la nuit gîte, litière et pâture. Le sire Landgrave manda incontinent à l'un de ses pages de traiter comme sien l'âne de Eulenspiegel. Bientôt vint l'heure du souper qui fut comme noces et festins, et les viandes de fumée et les vins de pleuvoir dans les gosiers. Eulenspiegel et le Landgrave, étant tous deux rouges comme braises, Eulenspiegel entra en joie, mais le Landgrave demeurait pensif. « Notre peintre, dit-il soudain, il me faudra pourtraire, car c'est une bien grande satisfaction à un prince mortel de léguer à ses descendants la mémoire de sa face. » « Sire Landgrave, répondit Eulenspiegel, votre plaisir et ma volonté. Mais il me semble à moi, chétif, que, pour traite toute seule, votre seigneurie n'aura pas grande joie dans les siècles à venir. Il lui faut être accompagné de sa noble épouse, Madame la Landgravine, de ses dames et seigneurs, de ses capitaines et officiers les plus guerriers, au milieu desquels mon Seigneur et Madame rayonneront comme deux soleils au milieu des lanternes. En effet, notre peintre, répondit le landgrave, que me faudrait-il te payer pour ce grand travail ? Oh, 100 florins d'avance ou autrement, répondit Eulenspiegel. Les voici d'avance, dit le sieur landgrave. Oh, compatissant seigneur, reprit Eulenspiegel, vous mettez de l'huile dans ma lampe, elle brûlera en votre honneur. Le lendemain, il demanda au sieur landgrave de faire défiler devant lui ceux auxquels il réservait l'honneur d'être pourtrait. Vint alors le duc de Lunebourg, commandant des lansquenets au service du landgrave. C'était un gros homme, portant à grand-peine sa panse gonflée de viande. Il s'approcha d'Eulenspiegel et lui glissa en l'oreille ces paroles. « Si tu ne m'ôtes pas en me pourtraitant la moitié de ma graisse, je te fais pendre par mes soudards. » Le duc passa. Vint alors une haute dame, laquelle avait une bosse au dos et une poitrine plate comme une lame de glaive de justice. « Messire peintre, dit-elle, si tu me mets deux bosses au lieu d'une que tu ôteras et ne me les places par devant, je te fais écarteler comme un empoisonneur. » La dame passa. Puis vint une jeune demoiselle d'honneur, blonde, fraîche et mignonne, mais à laquelle il manquait 3 dents sous la lèvre supérieure. « Messire peintre, dit-elle, si tu ne me fais rire et montrer 32 dents, je te fais hacher menu par mon galant qui est là. » Et lui montrant le capitaine d'arquebusier qui tantôt jouait au dé sur les escaliers du palais, elle passa. La procession continua. Eulenspiegel resta seul avec le sieur landgrave. « Si, dit le sieur landgrave, tu as le malheur de mentir d'un trait en pourtraitant toutes ces physionomies, je te fais couper le cou comme un poulet. Privé de la tête, pensa Eulenspiegel, écartelé, haché menu ou pendu pour le moins, il sera plus aisé de ne rien pourtraire du tout. J'y aviserai. Où est, demanda-t-il au landgrave, la salle qu'il me faut décorer de toutes ces peintures ? Suis-moi, dit le landgrave, et lui montrant une grande chambre avec de grands murs tout nus, voici, dit-il, la salle. Je serais bien aise, dit Eulenspiegel, que l'on plaçât sur ces murs de grands rideaux afin de garantir mes peintures des affronts des mouches et de la poussière. Ce sera fait, dit le sieur landgrave. Les rideaux étant placés, Eulenspiegel demanda 3 apprentis afin, disait-il, de leur faire préparer ces couleurs. Pendant 30 jours, Eulenspiegel et les apprentis ne firent que mener noces et ripailles, n'épargnant ni les fines viandes ni les vieux vins. Le landgrave veillait à tout. Cependant, le 31e jour, il vint pousser le nez à la porte de la chambre où Eulenspiegel avait recommandé qu'il n'entrât point. « Eh bien, t'il, dit-il, où sont les portraits ?»« Où ils sont loin ?» répondit Eulenspiegel. « Ne pourrait-on les voir ?»« Pas encore. » Le 36e jour, il poussa de nouveau le nez à la porte. « Eh bien, t'il, interrogea-t-il. « Sieur landgrave, il chemine vers la fin. » Le 60e jour, le landgrave se fâcha et, entrant dans la chambre, « Ah, tu me vas incontinent, dit-il, montrer les peintures. »« Oui, redouté seigneur, répondit Eulenspiegel, mais daignez le point ouvrir ce rideau. avant d'avoir mandé Séant, les seigneurs, capitaines et dames de votre cour. J'y consens, dit le ciel en grave. Tous vinrent à son ordre. Eulenspiegel se tenait devant le rideau bien fermé. Monseigneur Landgrave, dit-il, et vous, madame la Landgravine, et vous, monseigneur de Lunebourg, et vous autres, belle dame et vaillant capitaine, j'ai pour trait de mon mieux derrière ce rideau vos faces mignonnes ou guerrières. Il vous sera facile de vous y reconnaître chacun très bien. Vous êtes curieux de vous voir, c'est justice. Mais daignez prendre patience et laissez-moi vous dire un mot ou six. Belle dame et vaillant capitaine, qui êtes tous de sang noble, vous pouvez voir et admirer ma peinture, mais s'il est parmi vous un vilain, il ne verra que le mur blanc. Et maintenant, daignez ouvrir vos nobles yeux. Eulenspiegel tira le rideau. Les nobles hommes seuls y voient, seuls y voient les nobles dames. Aussi dira-t-on bientôt, aveugle en peinture comme vilain et clairvoyant comme noble homme. Et tous écarquillaient les yeux, prétendant y voir, s'entremontrant, désignant et reconnaissant, mais ne voyant en effet que le mur nu, ce qui les faisait penauds. Soudain, le fou qui était présent sauta de trois pieds en l'air et agitant ses grelots. « Qu'on me traite, dit-il, de vilain, vilain, vilain en vilainie, mais je dirai, crierai avec trompette et fanfare, que je vois là un mur blanc, nu, un mur nu, ainsi m'aide Dieu et tous ses saints. » Eulenspiegel répondit, « Oh, quand les fous se mêlent de parler, il est temps que les sages s'en aillent. » Il allait sortir du palais quand le landgrave l'arrêtant. « Fou folliant, dit-il, qui t'en va par le monde louant choses belles et bonnes et te gaussant de sottises à pleine gueule, toi qui osas, en face de tant de hautes dames et de plus hauts et grands seigneurs, te gausser populairement de l'orgueil blasonique et seigneurial, tu seras pendu un jour pour ton libre parler. Ben, si la corde est d'or, répondit Eulenspiegel, elle cassera de peur en me voyant venir. Tiens, dit le landgrave en lui donnant 15 florins, en voici le premier bout. Oh, grand merci, monseigneur, répondit Eulenspiegel. Chaque auberge du chemin en aura un fil. Fil tout d'or qui fait des Crésus de tous ces aubergistes et harons. Et il s'en fut sur son âne, portant haut sa toque, la plume au vent, joyeusement. Les feuilles jaunissaient sur les arbres et le vent d'automne commençait de souffler. Catherine était parfois raisonnable pendant une heure ou trois. Et Claës disait alors que l'Esprit de Dieu, en sa douce miséricorde, venait la visiter. En ces moments, elle avait pouvoir de jeter par geste et par langage un charme sur Nelly, qui voyait à plus de 100 lieues les choses qui se passaient sur les places, dans les rues ou dans les maisons. Donc, ce jour-là, Kathleen était en son bon sens, mangeait des olioculus bien arrosés de double cuit avec Claës, Sautkin et Nelly. Claës dit, « C'est aujourd'hui le jour de l'abdication de sa sainte majesté l'empereur Charles Quint. Nelly, ma mignonne, saurais-tu voir jusqu'à Bruxelles en Brabant ?»« Ben, je le saurai si Kathleen le veut, » répondit Nelly. Catherine alors fit asseoir la fillette sur un banc, et par ses paroles et gestes, agissant comme charme, Nelly s'affaissa tout ensommeillée. Catherine lui dit, « Entre dans la petite maison du parc, qui est le séjour aimé de l'empereur Charles Quint. Je suis, dit Nelly par l'embassement, et comme si elle étouffait, je suis en une petite salle peinte à l'huile en verre. Là se trouve un homme tirant sur les 54 ans, chauve et gris, portant la barbe blonde sur un menton proéminent, ayant un mauvais regard en ses yeux gris, plein de ruse, de cruauté et de fin de bonhomie. Et cet homme, on l'appelle Sainte Majesté. Il est cathareux et tousse beaucoup. Auprès de lui en est un autre, jeune, au laid museau, comme d'un singe hydrocéphale. Ah, celui-là, je le vis à Anvers, c'est le roi Philippe. Sa Sainte Majesté lui reproche en ce moment d'avoir découché la nuit, sans doute, dit-elle, pour aller trouver en un bouge quelques guenons de la ville basse. Et elle dit que ses cheveux ont une odeur de taverne, que ce n'est pas là un plaisir de roi n'ayant qu'à choisir corps mignon, peau de satin rafraîchie dans des bains de senteur, et mains de grande dame bien amoureuse. Ce qui vaut mieux, dit-elle, qu'une truie folle sortie à peine lavée des bras d'un soudard ivrogne. Il n'est point, lui dit-il, de femme pucelle, mariée ou veuve, qui lui voulut résister, parmi les plus nobles et belles éclairant leurs amours avec bougies parfumées, et non aux graisses lueurs de puantes chandelles. Là, le roi répond à sa Sainte Majesté qui lui obéira en tout. Puis, sa Sainte Majesté tousse et boit quelques gorgées d'Hippocras. Tu vas, dit-elle en s'adressant à Philippe, voir tantôt les états généraux, prélats, nobles et bourgeois. L'orange, le taiseux, d'Egmont le vilain, le vin, d'Orne c'est l'impopulaire, Bret de Brode le lion, et aussi tous ceux de la toison d'or dont je te ferai souverain. Tu verras là 100 porteurs de hochets, qui se couperaient tous le nez s'ils pouvaient le porter à une chaîne d'or sur la poitrine en signe de plus haute noblesse. Puis, changeant de ton et bien dolente, sa Sainte Majesté dit au roi Philippe « Tu sais que je vais abdiquer en ta faveur, mon fils, donner à l'univers un grand spectacle et parler devant une grande foule, quoique hoquetant et toussant, car je mangeais trop toute ma vie, mon fils. Et tu devras avoir le cœur bien dur si, après m'avoir entendu, tu ne verses pas quelques larmes. » « Je pleurerai, mon père, répond le roi Philippe. » Puis sa Sainte Majesté parle à un valet qui a nom Dubois. « Dubois, dit-elle, baille-moi un morceau de sucre de madère, j'ai le hoquet. Oh, pour qu'il m'aille pas saisir quand je parlerai à tout le monde, cet oie d'hier me passera donc jamais. » Si je buvais un nappe de vin d'Orléans, oh non, non, il est trop cru. Si je mangeais quelques anchois, oh non, ils sont bien huileux. Oh non, Dubois, donne-moi du vin de Romagne. Dubois donne à sa Sainte Majesté ce qu'elle demande, puis lui met une robe de velours cramoisie, la couvre d'un manteau d'or, la ceint de l'épée, lui met aux mains le sceptre et le globe, et sur la tête la couronne. Puis sa Sainte Majesté sort de la maison du parc, montée sur une petite mule et suivie du roi Philippe et de main haut personnage. Ils vont ainsi en un grand bâtiment qu'ils nomment palais, et ils trouvent en une chambre un homme de haute et mince taille, richement vêtu et qu'ils nomment d'Orange. Sa Sainte Majesté parle à cet homme et lui dit « Ai-je bonne mine, cousin Guillaume ?» Mais l'homme ne répond point. Sa Sainte Majesté lui dit alors, moitié riant, moitié fâché, Ben, tu seras donc toujours muet, mon cousin, même pour dire leur vérité aux anticailles. Faut-il que je règne encore ou que j'abdique, taiseux? Cette majesté, répond le mince, quand vient l'hiver, les plus forts chênes laissent tomber leurs feuilles. 3 heures sonnent. Taiseux, dit-elle, prête-moi ton épaule que je m'y appuie. Et elle entre avec lui et sa suite dans une grande salle, s'assied sous un dais sur une estrade couverte de soie et de tapis cramoisis. Là sont 3 sièges. Sa Sainte Majesté prend celui du milieu, plus orné que les autres et surmonté d'une couronne impériale. Le roi Philippe s'assied sur le deuxième, et le troisième est pour une femme qui est une reine sans doute. À droite et à gauche sont assis, sur des bancs tapissés, des hommes vêtus de rouge et portant au cou un mouton en or. Derrière eux se tiennent plusieurs personnages, qui sont sans doute princes et seigneurs. Vis-à-vis et au bas de l'estrade sont assis sur des bancs non tapissés des hommes vêtus de draps. Je leur entends dire qu'ils ne sont assis et vêtus si modestement que parce qu'ils payent à eux seuls toutes les charges. Bon, chacun s'est levé quand sa Sainte Majesté est entrée, mais elle s'est bientôt assise et fait signe à chacun de l'imiter. Un homme vieux parle alors de la goutte longuement, puis la femme, qui semble être une reine, remet à sa Sainte Majesté un rouleau de parchemin où il y a des choses écrites que sa sainteté lit en toussant et d'une voix sourde et basse, et parlant d'elle-même, dit « J'ai fait maint voyage en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Afrique, le tout pour la gloire de Dieu, le renom de mes armes et le bien de mes peuples. » Puis, alors, ayant parlé longuement, elle dit qu'elle est débile et fatiguée et veut mettre la couronne d'Espagne, les comtés, duché, marquisat de ces pays aux mains de son fils. Puis elle pleure, et tous pleurent avec elle. Le roi Philippe se lève alors et tombant à genoux. « Sainte Majesté, dit-il, m'est-il permis de recevoir cette couronne de vos mains quand vous êtes si capable de la porter encore ?» Puis sa Sainte Majesté lui dit à l'oreille de parler bénévolement aux hommes qui sont assis sur les bancs tapissés. Et le roi Philippe, se tournant vers eux, leur dit d'un ton aigre et sans se lever, « J'entends assez bien le français, mais pas assez pour vous parler en cette langue. Vous entendrez ce que l'évêque d'Arras, monseigneur Granvelle, vous dira de ma part. » Oh, « tu parles mal, mon fils, » dit sa Sainte Majesté. Et de fait, l'assemblée murmure en voyant le jeune roi si fier et si hautain. La femme, qui est la reine, parle aussi pour faire son éloge, puis vient le tour d'un vieux docteur qui, lorsqu'il a fini, reçoit un signe de main de sa Sainte Majesté en façon de remerciement. Ces cérémonies et harangues finies, sa Sainte Majesté déclare ses sujets libres de leur serment de fidélité, signe les actes pour se dresser, et se levant de son trône, y place son fils, et chacun pleure dans la salle, puis il s'en revaut à la maison du parc. Là, étant de rechef en la chambre verte, seules et toutes portes closes, sa Sainte Majesté rit aux éclats, et parlant au roi Philippe, qui ne rit point, « As-tu vu, dit-elle, parlant coquettant et riant à la fois, comme il faut peu pour attendrir ces bons hommes, quel déluge de larmes !» Et ce gros Maès, qui en terminant son long discours pleurait comme un veau. Toi-même parus ému, mais pas assez. Voilà les vrais spectacles qu'il faut au populaire. Mon fils, nous autres hommes, nous chérissons d'autant plus nos amis qu'elles nous coûtent davantage. Ainsi les peuples, plus nous les faisons payer, plus ils nous aiment. J'ai toléré en Allemagne la religion réformée que je punissais sévèrement aux Pays-Bas. Si les princes d'Allemagne avaient été catholiques, je me serais fait luthérien et j'aurais confisqué leurs biens. Ils croient à l'intégrité de mon zèle pour la foi romaine et regrettent de me voir les quitter. Il a péri de bon fait aux Pays-Bas pour cause d'hérésie 50 000 de leurs hommes les plus vaillants et de leurs plus mignonnes fillettes. Je m'en vais, ils se lamentent. Sans compter les confiscations, je les ai fait contribuer plus que les Indes et le Pérou, et ils sont maris de me perdre. J'ai déchiré la paix de 4 ans, dompté Gand, supprimé tout ce qui pouvait me gêner, liberté, franchise, privilège. Tout est soumis à l'action des officiers du prince. Et ces bons hommes se croient encore libres parce que je les laisse tirer de l'arbalète et porter processionnellement leur drapeau de corporation. Ils sentirent ma main de maître. Et mis en cage, ils s'y trouvent à l'aise, ils chantent et me pleurent. Mon fils, sois avec eux tel que je le fus. Bénin en parole, rude en action, lèche tant que tu n'as pas besoin de mordre. Jure toujours leur liberté, franchise et privilège, mais s'ils peuvent être un danger pour toi, détruis-les. Ils sont de fer quand on y touche d'une main timide, mais de verre quand on les brise avec un bras robuste. Frappe l'hérésie, non à cause de sa différence avec la religion romaine, mais parce qu'en ces Pays-Bas, elle ruinerait notre autorité. Ceux qui s'attaquent au pape, qui portent 3 couronnes, ont bientôt fui des princes qui n'en ont qu'une. Fais-en comme moi de la libre conscience un crime de lèse-majesté, avec confiscation de biens, et tu hériteras, comme j'ai fait toute ma vie. Et quand tu partiras pour abdiquer ou pour mourir, ils diront « Oh, le bon prince !» et ils pleureront. J'entends plus rien, poursuivit Nel, car sa sainte majesté s'est couchée sur un lit et dort, et le roi Philippe, hautain et fier, le regarde sans amour. Ce qu'ayant dit, Nel fut éveillé par Kathleen. Et Claes, songeur, regardait la flamme du foyer éclairer la cheminée. Eulenspiegel, en quittant le landgrave de Hesse, monta sur son âne et, traversant la grande place, rencontra quelques faces courroucées de seigneurs et de dames, mais il n'en eut point de souci. Bientôt, il arriva sur les terres du duc de Lunebourg et il fit rencontre d'une troupe de Smaldelijkbroeders, joyeux flamands de Suisse, qui mettaient tous les samedis quelque argent de côté pour aller une fois l'an voyager en pays d'Allemagne. Il s'en allait chantant dans un chariot découvert et traîné par un vigoureux cheval de Wurmbart, lequel les menait batifolant par les chemins et marais du duché de Lunebourg. Il en était parmi eux qui jouaient du fifre, du rebec, de la viole et de la cornemuse avec grand fracas. À côté du chariot marchait souvent fois un Dilzag, joueur du Rommelpot, et cheminant à pied dans l'espoir de faire fondre sa bedaine. Comme ils étaient à leur dernier florin, ils virent venir à eux Eulenspiegel, lesté de sonnante monnaie, entrèrent en une auberge et lui payèrent à boire. Eulenspiegel accepta volontiers. Voyant toutefois que les Smaldelijkbroeders clignaient de l'œil en le regardant et souriaient en lui versant à boire, il eut vent de quelques niches. sortit et se tint à la porte pour écouter leur discours. Il entendit le Dissac disant de lui « C'est le peintre du Landgrave qui lui bailla plus de 1000 florins pour un tableau. Festoyons de bière et de vin, il nous en rendra le double. » « Amen !» dirent les autres. Budenspiegel alla attacher son âne tout scellé à 1000 pas de là, chez un fermier, donna 2 patards à une fille pour le garder, rentra dans la salle de l'auberge et s'assit à la table des Smolodrickebrüders sans mot dire. Ceux-ci lui versèrent à boire et payèrent. Budenspiegel, faisant sonner dans sa gypsière les florins du Landgrave, disant qu'il venait de vendre son âne à un paysan pour 17 deldors d'argent. Ils voyagèrent, mangeant et buvant, jouant du fifre, de la cornemuse et du rommelpot, et ramassant en chemin les commères qui leur semblaient avenantes. Ils procréèrent ainsi des enfants du bon Dieu, et notamment Eulenspiegel, dont la commère eut plus tard un fils, qu'elle nomma Eulenspiegelgelken, ce qui veut dire « petit miroir et hibou » en haut allemand, et cela parce que la commère ne comprit pas bien la signification du nom de son homme de hasard, et aussi peut-être en mémoire de l'heure à laquelle fut fait le petit. Et c'est de cet Eulenspiegelgelken qu'il est dit faussement qu'il naquit à Knichtingen, au pays de Saxe. Se laissant traîner par leur vaille en cheval, ils allaient le long d'une chaussée, au bord de laquelle était un village et une auberge, portant pour enseigne Indenketele, au chaudron. Il en sortait une bonne odeur de fricassé. Le Dissac, qui jouait du rommelpot, alla au Baès et lui dit en parlant de Eulenspiegel « C'est le peintre du Landgrave, il y paiera tout. » Le Baès, considérant la mine d'Eulenspiegel qui était bonne, et entendant le son des florins et d'Aelders, apporta sur la table de quoi manger et boire. Eulenspiegel ne s'en faisait point faute. Et toujours sonnaient les écus de son escarcelle. Maintes fois, il avait ainsi frappé sur son chapeau en disant que là était son plus grand trésor. Les ripailles ayant duré 2 jours et 1 nuit, les Smolodrickebrüders dirent à Eulenspiegel « Vidons de séance et payons la dépense. » Eulenspiegel répondit « Mais quand le rat est dans le fromage, demande-t-il à s'en aller ?»« Non, » dirent-ils. « Et quand l'homme mange et boit bien, cherche-t-il la poussière des chemins et l'eau des sources pleines de sangsues ?»« Non, » dirent-ils. « Donc, » poursuivit Eulenspiegel, « demeurons ici tant que mes florins et d'Elders vous serviront d'entonnoir pour verser dans votre gosier les boissons qui font rire. » Et il commanda à l'hôte d'apporter encore du vin et du saucisson. Tandis qu'il buvait et mangeait, Eulenspiegel disait « C'est moi qui paye, je suis Landgrave présentement, si mon escarcelle était vide. Que feriez-vous, camarade? Vous pendriez mon couvre-chef de feutre mou et trouveriez qu'il est plein de carolus, tant au fond que sur les bords. » Laisse-nous tâter, disaient-ils tous ensemble. Et soupirant, ils y sentaient entre leurs doigts de grandes pièces ayant la dimension des carolus d'or. Mais l'un d'eux le maniait avec tant d'amitié, Eulenspiegel le reprit, disant « Laitier, impétueux, il faut savoir attendre l'heure de traire. » « Donne-moi la moitié de ton chapeau, » disait le Smolodrickebrüder. « Ah non, » répondait Eulenspiegel, « je ne veux pas que tu aies une cervelle de fou, la moitié à l'ombre et l'autre au soleil. » puis donnant son cours au chef, au Baas. « Toi, dit-il, garde-le toutefois car il est chaud. Quant à moi, je vais me vider dehors. » Il le fit et l'hôte garda le chapeau. Bientôt, il sortit de l'auberge, alla chez le paysan, monta sur son âne et courut le grand pas sur la route qui mène à Emmenden. Les Smolgdik Brothers, ne le voyant pas revenir, s'entredisaient « Est-il parti, mais qui paiera la dépense ?» Le Baas, saisi de peur, ouvrit d'un coup de couteau le chapeau de Lundspiegel. Mais au lieu de Carolus, il n'y trouva, entre le feutre et la doublure, que de méchants jetons de cuivre. S'emportant alors contre les Smolgdik Brothers, il leur dit « Frères en friponnerie, vous ne sortirez pas d'ici, que vous n'y ayez laissé tous vos vêtements, la chemise seule exceptée. » Et ils durent se dépouiller tous pour payer leur écho. Ils allèrent ainsi en chemise par bons et par veaux, car ils n'avaient pas voulu vendre leur cheval ni leur chariot. Et chacun, les voyant si piteux, leur donnait volontiers à manger du pain, de la bière et quelquefois de la viande, car ils disaient partout qu'ils avaient été dépouillés par des larrons. Et ils n'avaient à eux tous qu'un haut de chausse. Et ainsi ils revinrent à Sluis en chemise, dansant dans leur chariot et jouant du rommelpot. Dans l'entretemps où l'Eulspiegel califourchonnait sur le dos de Jeff à travers les terres et marais du duc de Lunebourg, les Flamands nomment ce duc Watersignork à cause qu'il fait toujours humide chez lui. Jeff obéissait à Eulenspiegel comme un chien, buvait de la brumbière, dansait mieux qu'un Hongrois maître essart de souplesse, faisait le mort et se couchait sur le dos au moindre signe. Eulenspiegel savait que le duc de Lunebourg, marri et fâché de ce que Eulenspiegel s'était gaussé de lui à Darmstadt en la présence du landgrave de Hesse, lui avait interdit l'entrée de ses terres sous peine de la hart. Soudain, il vit venir son Altesse ducale en personne, et comme il savait qu'elle était violente, il fut pris de peur, parlant à son âne. « Jeff, dit-il, voici monseigneur de Lunebourg qui vient. J'ai au cou une grande démangeaison de cordes, mais que ce ne soit pas le bourreau qui me gratte. Jeff, je veux bien être gratté, mais non pendu. Allez, songe que nous sommes frères en misère et longues oreilles. Songe aussi quel bon ami tu perdrais me perdant. » Et Eulenspiegel s'essuyait les yeux, et Jeff commençait à braire. Continuant son propos, « Nous vivons ensemble joyeusement, lui dit Eulenspiegel, ou tristement, suivant l'occurrence. T'en souviens-tu, Jeff ?» L'âne continuait de braire car il avait faim. « Mais tu pourras jamais m'oublier, disait son maître, car quelle amitié forte, sinon celle qui rit des mêmes joies et pleure des mêmes peines. Jeff, il faut te mettre sur le dos. » Le doux âne obéit et fut vu par le duc les quatre sabots en l'air. Eulenspiegel s'assit prestement sur son ventre. Le duc vint à lui. « Que fais-tu là ? » dit-il. « Ignores-tu que, par mon dernier placard, je t'ai défendu sous peine de la corde de mettre ton pied poudreux en mes pays ?» Eulenspiegel répondit « Gracieux seigneur, prenez-moi en pitié. » Puis montrant son âne. « Vous savez bien, dit-il, que par droit et loi, celui-là est toujours libre qui demeure entre ces quatre pieux. » Le duc répondit, « Sors de mes pays, sinon tu mourras. » « Bon, seigneur, répondit Eulenspiegel, j'en sortirai si vite, monté sur un florin ou deux. »« Vaurien, dit le duc, vas-tu donc, en train de ta désobéissance, me demander encore de l'argent ?»« Il le faut bien, monseigneur, puisque je ne peux pas vous le prendre. » Le duc lui donna un florin. Puis Eulenspiegel, lui parlant à son âne, « Jeff, lève-toi et salue mon seigneur. » L'âne se leva et se remit à braire, puis tous deux s'en furent. Sutkin et Nelly étaient assises à l'une des fenêtres de la chaumière et regardaient dans la rue. Sutkin disait à Nelly, « Mignonne, vois-tu pas venir mon fils, Eulenspiegel ?»« Non, disait Nell, nous ne le verrons plus, ce méchant vagabond. »« Nell, disait Sutkin, il faut pas être fâché contre lui, mais le plaindre, car il est hors du logis, le petit homme. »« Je le sais bien, disait Nell, il a une autre maison bien loin d'ici, plus riche que la sienne ou quelque belle dame. » Lui donne sans doute à loger. Ce serait bien heureux pour lui, disait Sutkin. Il y est peut-être nourri d'ortolans. Que ne lui donne-t-on des pierres à manger? Il serait vite ici le goulu, disait Nell. Sutkin alors riait et disait, mais d'où vient donc, mignonne, cette grande colère? Mais Claes, qui, tout songeur aussi, liait des fagots dans un coin, « Ah, vois-tu pas, disait-il, qu'elle en est affolée ?»« Voyez-vous, disait Sutkin, la rusée côtelose, qui m'en a point sonné mot. Est-il vrai, mignonne, que tu en veuilles ?»« On ne le croyait pas, disait-elle. » Mais tu auras là, dit Claes, un vaillant époux, ayant grande gueule, le ventre creux et la langue longue, faisant des florins des liards et jamais un sou de son labeur, toujours battant le pavé et mesurant les chemins à l'aune du vagabondage. Mais Nelly répondit toute rouge et fâchée, et que n'en fîtes-vous autre chose? Oh, voilà, dit Sutkin, qu'elle pleure maintenant. « Allez, tais-toi, mon homme !» Eulenspiegel vint un jour à Nuremberg et s'y donna pour un grand médecin, vainqueur de maladies, purgateur très illustre, célèbre dompteur de fièvre, renommé balayeur de peste et invincible fouetteur de galles. Il y avait à l'hôpital tant de malades qu'on ne savait où les loger. Le maître hospitalier, ayant appris la venue d'Eulenspiegel, vint le voir et s'enquit de lui s'il était vrai qu'il pût guérir toutes les maladies. « Oh, excepté la dernière, répondit Eulenspiegel, mais promettez-moi 200 florins pour la guérison de toutes les autres et je n'en veux pas recevoir un liard. » Que tous vos malades ne se disent guéris et ne sortent de l'hôpital. » Il vint le lendemain au dit hôpital, le regard assuré et portant doctoralement sa trogne solennelle. Étant dans les salles, il prit à part chaque malade et, lui parlant, « Jure, disait-il, de ne confier à personne ce que je vais te conter à l'oreille. Quelle maladie as-tu ? » Le malade le lui disait et jurait son grand Dieu de se taire. « Sache, disait Eulenspiegel, que je dois par le feu réduire l'un de vous en poussière et que je ferai de cette poussière une mixture merveilleuse et la donnerai à boire à tous les malades. » Celui qui ne saura marcher sera brûlé. Demain, je viendrai ici et me tenant dans la rue avec le maître hospitalier, je vous appellerai tous criant « Que celui qui n'est pas malade trousse son bagage et vienne !» Le matin, Poulenspiegel vint et cria comme il l'avait dit. Tous les malades, boiteux, catareux, tous fiévreux, voulurent sortir ensemble. Tous étaient dans la rue de ceux-là même qui, depuis 10 ans, n'avaient pas quitté leur lit. Le maître hospitalier leur demanda s'ils étaient guéris et pouvaient marcher. « Oui, répondirent-ils, croyant qu'il y en avait un qui brûlait dans la cour. » Poulenspiegel dit alors au maître hospitalier, « Paye-moi, puisqu'ils sont tous dehors et se déclarent guéris. » Le maître lui paya 200 florins, et Poulenspiegel s'en fut. Mais le deuxième jour, le maître vit revenir ses malades dans un pire état que celui où ils se trouvaient auparavant, sauf un qui, s'étant guéri au grand air, fut trouvé ivre en chantant dans les rues « Noël au grand docteur Poulenspiegel !» Les 200 florins ayant couru la prétentaine, Poulenspiegel vint à Vienne, où il se loua à un charron qui gourmandait toujours ses ouvriers parce qu'il ne faisait pas aller assez fort le soufflet de la forge. « En mesure » cria-t-il toujours, « suivez avec les soufflets !» Poulenspiegel, un jour que le Baès allait au chardin, détache le soufflet, l'emporte sur ses épaules, suit son maître. Celui-ci, s'étonnant de le voir si étrangement chargé, Poulenspiegel lui dit « Baz, vous m'avez commandé de suivre avec les soufflets. Où faut-il que je dépose celui-ci pendant que j'irai chercher l'autre ?»« Cher garçon, répondit le Baz, je ne t'ai pas dit cela. Va remettre le soufflet à sa place. » Cependant, il songeait à lui faire payer ce tour. Dès lors, il se leva tous les jours à minuit, éveilla ses ouvriers et les fit travailler. Les ouvriers lui dirent, « Mais baisse, pourquoi les éveilles-tu toujours au milieu de la nuit ?»« Ben, c'est une habitude que j'ai, répondit le baisse, de ne permettre à mes ouvriers de ne rester qu'une demi-nuit au lit pendant les 7 premiers jours. » La nuit suivante, il éveilla encore à minuit ses ouvriers. Poulenspiegel, qui couchait au grenier, mit son lit sur son dos et ainsi chargé descendit dans la forge. Le baisse lui dit « Es-tu fou ? Que ne laisses-tu ton lit à sa place ?»« C'est une habitude que j'ai, répondit Poulenspiegel, de passer les 7 premiers jours, la moitié de la nuit, sur mon lit, et l'autre moitié dessous. Eh bien moi, répondit le maître, c'est une seconde habitude que j'ai de jeter à la rue mes effrontés ouvriers avec la permission de passer la première semaine sur le pavé et la seconde dessous. Oh, dans votre cas, ben, si vous voulez, prenez tonneau de brumbier, répondit Poulenspiegel. Ayant quitté le charron et se retournant en Flandre, il dut se donner à louage d'apprenti à un cordonnier qui restait plus volontiers dans la rue qu'à tenir la laine en son ouvroir. Poulenspiegel, le voyant pour la 100e fois prêt à sortir, lui demanda comment il lui fallait couper le cuir des empeignes. « Coupe-en, répondit le baisse, pour des grands et de moyens pieds, afin que tout ce qui mène le gros et le menu bétail puisse y entrer commodément. » « Ainsi sera-t-il fait, Baès ?» répondit Poulenspiegel. Quand le cordonnier fut sorti, Poulenspiegel coupa des empeignes bonnes seulement à chaussée, cavale, ânesse, génisse, truie et brebis. De retour à l'ouvroir, le Baès, voyant son cuir en morceaux, « Et qu'as-tu fait là, gâcheur vaurien ?» lui dit-il. « Ce que vous m'avez dit ?» répondit Eulenspiegel. « Je t'ai commandé, repartit le Baès, de me tailler des souliers où puisse entrer commodément tout ce qui mène les bœufs, les porcs, les moutons. Et tu me fais de la chaussure aux pieds de ces animaux. » Eulenspiegel répondit. « Baès, qui donc mène le verra, sinon la truie, l'âne, sinon l'ânesse, le taureau, sinon la génisse, le bélier, sinon la brebis, en la saison où toutes ces bêtes sont amoureuses. » Puis il s'en fut et dut rester dehors.